Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur le problème de la criminalité pharmaceutique. Un phénomène encore mal connu mais qui est en plein essor, comme l'illustre l'opération Pangea 6 lancée en 2013 par Interpol pour démanteler les réseaux criminels à l'origine de la vente illicite de médicaments en ligne. L'une des plus vastes opérations conduites sur Internet à l'échelle mondiale, le coup de filet a abouti à la saisie de 9,8 millions de médicaments potentiellement dangereux d'une valeur estimée à 41 millions de dollars. Mais qu'entend-on exactement quand on parle de criminalité pharmaceutique ? Aline Planson, sous-directeur d'Interpol chargée de la lutte contre la contrefaçon de produits médicaux et la criminalité pharmaceutique, répond à nos questions.
Alors, s'agissant de criminalité pharmaceutique, nous parlons de tout le phénomène criminel dans lequel les groupes organisés ont développé leurs activités les années récentes, et notamment tout ce qui est médicaments contrefaits ou falsifiés, les médicaments qui sont détournés de leur destination finale, les médicaments qui sont volés et ensuite revendus dans des marchés illégaux, et également tout ce qui a trait à la fraude de médicaments, donc ce qui est vendu illicitement sur les marchés dits traditionnels, donc de rue, illicites, mais également vendus sur Internet. Donc quand nous parlons de criminalité pharmaceutique, ce sont tous ces concepts que nous prenons en compte.
Et vous avez mentionné que c'est quelque chose de relativement nouveau. Quand est-ce que les organismes ont commencé à se soucier de ce phénomène ?
Alors, s'agissant d'Interpol, dès 2005, nous avons été sollicités par des pays et des partenaires pour mettre en place une coordination technique dans le cadre de la lutte contre un massif problème de trafic de faux antimalaria en Asie du Sud-Est. Ensuite, l'OMS nous a contactés en 2006 pour nous proposer de s'associer à elle dans le cadre d'une task force, d'un groupe de travail contre ce fléau auquel nous avons participé. Et les années qui ont suivi, nous avons continué à développer un programme spécifique avec des actions techniques et à la fois opérationnelles de sensibilisation, prévention, pour éduquer les polices du monde, assister les enquêtes internationales et puis sensibiliser à la fois les agences et la population sur les dangers des faux médicaments.
Donc, quels sont justement certains des dangers que posent ces faux médicaments ?
Alors, les faux médicaments posent tout d'abord un danger de santé publique et de sécurité. Et en ça, santé publique et sécurité, nous pensons à la fiabilité des systèmes de santé, parce que l'infiltration des faux, des mauvais médicaments, de ceux qui sont trafiqués par les criminels, infiltre toutes les chaînes, légales, illégales. Et les patients ne le savent pas, les consommateurs ne sont pas forcément informés. Et malheureusement, à partir du moment où ils ont un faux médicament en main et qu'ils le prennent, il y a des risques de mort, des risques de lésions graves, mais également de handicaps importants. Par ailleurs, un autre danger qui a été identifié est celui de la résistance aux maladies. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un mauvais médicament, au pire, il n'est pas soigné, mais au mieux, il peut être soigné, mais mal. Et cela peut causer des résistances à des maladies et de cette façon-là, obliger le patient à prendre un traitement plus lourd et plus long.
A-t-on une idée de l'ampleur du phénomène ? A-t-on pu chiffrer, par exemple, le revenu que tirent les filières criminelles de ce trafic ? Combien de personnes ont été touchées ? Quelles sont les régions les plus affectées dans le monde ?
une combinaison de rapports, si vous voulez, qui sont basés encore sur des méthodologies sommaires, dans la mesure où nous savons que nous ne savons pas, nous n'avons pas tous les éléments pour mettre en place des statistiques complètement fiables. Nous sommes quand même dans une criminalité complètement cachée, illicite, assez mal connue, mal reconnue et peu comptabilisée par les États pour tout un tas de raisons. Et surtout, il y a des discordances ou en tout cas un manque d'harmonie dans les définitions. Cela dit, les criminels ont généré, d'après ce qu'on a pu le savoir, en 2012 par exemple, plus de 50 milliards de bénéfices en dollars US, du dérivé des activités et du commerce des faux médicaments. Il est difficile d'avoir le nombre de victimes parce qu'en général, il n'est pas encore fait de lien direct entre le décès et la prise d'un faux médicament. Et justement, toutes les actions de sensibilisation mises en œuvre essaient de participer à pouvoir comprendre et avoir davantage de statistiques fiables en victimes. Toutes les régions du monde sont touchées, et particulièrement les pays en voie de développement, qui sont exposés au marché de la rue, au marché complètement illicite, et donc une vague de médicaments contrefaits mais absolument illégaux qui infiltrent les marchés. Mais les pays en voie de développement aussi sont touchés à travers les outils Internet. Et les réseaux criminels développent de plus en plus leurs activités, et en masse, parce qu'ils savent qu'ils peuvent toucher énormément de consommateurs et de patients à travers Internet.
Quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour combattre ce commerce virtuel ?
Bon, le principal défi est la volatilité. Les criminels sur Internet ont une flexibilité et une capacité de se retourner de façon extrêmement rapide. Ils peuvent ouvrir un site ou une pharmacie illégale en ligne ou vendre de façon illégale des médicaments en ligne, peuvent fermer ce site et le rouvrir sous un autre nom quelques jours plus tard. Et les autorités auront toujours une difficulté, en tout cas un temps de retard à soit fermer, soit à rattraper ces criminels. Donc le fait que nous soyons en face d'un outil technique international à la portée de tous et du coup assez facile d'usage, on voit aussi que les criminels l'utilisent, eux, pour développer, fermer et rouvrir leur facilité de vendre des médicaments illégalement.
Et que contiennent ces médicaments ? A-t-on pu effectuer des analyses ? Est-ce que ce sont par exemple des substances qu'on appellerait en anglais des sugar pills, qui sont juste des placebos, ou est-ce qu'elles peuvent contenir des substances plus dangereuses ?
D'après les affaires qui nous ont été rapportées, on a effectivement plusieurs typologies de médicaments falsifiés ou contrefaits. Certains ne contiennent rien, effectivement, ce sont des placebos si vous voulez, mais à partir du moment où vous prenez un placebo pour soigner une maladie chronique, ça devient quand même très dangereux. Mais vous avez aussi des médicaments qui contiennent soit le mauvais principe actif, donc le mauvais ingrédient, ou soit trop du principe actif qui devrait se retrouver dans le médicament, ou pas assez. Donc il y a toute une variété, si vous voulez, de produits qui se retrouvent dans ces faux médicaments.
Et est-ce qu'il s'agit principalement de pilules, ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'administration de traitement ?
Alors il y a effectivement les pilules, les médicaments assez traditionnels, mais il y a également les sirops, tous les dispositifs médicaux, et également les vaccins qui malheureusement sont aussi touchés par ces problèmes.
Ow! Who put the bands of dream in Mrs. Murphy's old team? She was ashamed, don't know who's to blame, 'cause the old lady didn't even get his name. Where did she get that stuff? Now she just can't get enough.
Quelles sont les stratégies que vous préconisez pour combattre au mieux ce phénomène?
La stratégie initiale est celle que l'on conserve et que l'on développe est celle du partenariat, dans la mesure où nous sommes confrontés à un problème plurisectoriel de santé et de sécurité qui affecte toutes les parties du monde et les populations. Et sans un travail collectif complémentaire de la part des partenaires en place, nous voyons peu de chances d'avoir du succès. Donc la stratégie est celle d'un partenariat multisectoriel, santé-sécurité, associer le secteur privé et en cela le monde académique, des scientifiques, mais aussi le monde du secteur privé qui a un intérêt à soutenir et à supporter ces efforts. Et ensuite, pour le compte de l'organisation Interpol, nous mettons en place des actions très techniques qui visent à aider les pays qui le souhaitent à échanger davantage d'informations en matière de faux médicaments, à pouvoir échanger entre eux sur des affaires internationales qui touchent à cette criminalité pharmaceutique, Nous visons également à développer les capacités des agences de police, mais nous proposons aussi de le faire concomitamment avec les agences douanières et régulateurs de santé, de façon à établir ce dialogue. Nous coordonnons également des opérations sur le terrain, des opérations coup de poing, mais des opérations planifiées, de façon à pouvoir identifier et démanteler les réseaux criminels. Et enfin, il y a des actions mises en place en matière de sensibilisation et de collaboration précise dans certains domaines, de façon à continuer à sensibiliser les pays, les agences, les services publics, les gouvernements, mais également à sensibiliser les patients qui sont les premières victimes de ces trafics.
Et à l'heure actuelle, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés dans cette lutte contre la criminalité pharmaceutique ?
Un des défis majeurs est celui de la coordination entre agences. Il est encore trop fréquent que certaines agences ne se parlent pas les unes les autres. Et malheureusement, seulement un dialogue peut apporter à des actions à succès. Par ailleurs, un des défis auxquels nous sommes confrontés est celle de la législation, qui malheureusement est trop faible par rapport à la gravité du crime. Nous voyons trop d'affaires qui sont soit classées, soit non prises en compte, parce que les infractions et les sanctions sont beaucoup trop faibles, ce qui encourage la criminalité à continuer de se développer.
Donc, est-ce à dire que, par exemple, une personne qui est reconnue coupable d'avoir fait un trafic de faux médicaments encourt une peine plus légère que, par exemple, quelqu'un qui s'adonne à un trafic de drogue complètement illicite ?
Exactement. Les sanctions ne sont pas du tout proportionnelles au comportement et bien souvent, les trafiquants reconnus avoir contrefait des médicaments ou vendu des médicaments illégaux se retrouvent avec des sanctions d'amende ou bien une peine de prison qui est absolument trop faible minime par rapport aux agissements.
Et comment cela se fait-il ? Est-ce à cause d'un manque de prise de conscience ou est-ce que c'est un peu aussi lié à la lenteur des systèmes légaux ?
Écoutez, je pense que l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que c'est un phénomène assez récent. Vous me demandiez en début d'interview depuis quand Interpol s'y intéresse, en tout cas a commencé à travailler depuis les années 2000-2005. L'OMS a lancé la sonnette d'alarme à travers ces pays en Afrique subsaharienne dès 1980. Cela dit, la communauté commence à s'intéresser à ce phénomène depuis une dizaine d'années. Et les États sont confrontés à cette criminalité de façon assez récente également, en tout cas en une proportion qu'il est difficile de ne plus voir et de ne plus l'ignorer. Donc là, il y a effectivement cette part de prise de conscience qui doit toujours s'établir, et également le système légal, sachant qu'il n'y a encore pas assez d'unités spécialisées en matière de lutte contre cette criminalité. Que ce soit une unité au sein des services de santé ou bien au sein de la police, il y a encore trop peu d'agents qui sont spécialisés dans ce type d'affaires et d'enquêtes. Et la législation, effectivement, a un temps nécessaire pour être mise en place et ne l'est pas encore dans la plupart des pays.
Que sait-on pour le moment des filières impliquées ? Est-ce que ce sont des nouveaux réseaux criminels ou est-ce que ce sont des réseaux déjà implantés qui sont en train de se diversifier, peut-on dire ?
Oui, pensons les deux. Alors, ce qui est récent dans le phénomène criminel, c'est sa croissance. Mais le phénomène des faux médicaments n'est pas quelque chose de très récent. Mais la croissance de ce phénomène criminel est quand même récemment exponentielle. Nous avons pu déterminer deux types de filières pour l'instant, grâce au soutien de nos États, nos 190 États qui ont été consultés. Et nous avons alors soit des filières de criminalité organisée type mafieux, si vous voulez, qui, elles, ont décidé de développer, en plus de leurs activités criminelles traditionnelles, les trafics de contrefaçon de médicaments et les médicaments illégaux, pour des raisons très simples de gains extrêmement important, avec une très faible possibilité d'aller en prison et de sanctions pénales. Et nous avons aussi ce phénomène-là qui est plus pour une criminalité, on va dire, d'opportunité, c'est-à-dire une association de criminels, en tout cas d'entités, qui décident qui ne sont pas forcément liées entre elles comme une famille de groupes type mafieux, mais qui décident de s'associer les unes aux autres pour développer ce trafic particulier de faux médicaments.
Et c'est avec Aline Plançon d'Interpol que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.